Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
J'ai un client régulier que je vois au moins une fois par mois. Et avec lui, il y a clairement... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'amour qui se met en place quand on est ensemble. Et que c'est aussi ça que je suis en train de lui vendre, d'une certaine manière. Moi, je crois pas que parce que l'amour est temporaire, c'est une illusion. Au contraire, il y a des moments où je suis amoureux de mon chat et ça dure 2 minutes dans la journée.
Bienvenue dans Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Pour ce premier podcast, on a eu envie de plonger, tête la première, dans tous les sujets qu'on évite soigneusement lors des conversations polies, ces sujets qui dérangent parce qu'ils nous mettent face à nos préjugés. Charles, c'est un jeune homme qui va à l'encontre de toutes les idées reçues sur les travailleurs du sexe. Ça fait quelques mois maintenant qu'il s'est lancé. Personne ne l'y a obligé, personne ne l'a manipulé. C'est après y avoir longuement réfléchi, alors qu'il finissait son mémoire d'université, qu'il a décidé de se donner 1 an pour expérimenter les relations sexuelles tarifées.
Je pense que j'ai une facilité avec le corps des autres, au niveau du toucher et du plaisir. Je suis assez à l'écoute et je comprends bien ce qui se passe dans le corps des autres quand tu es à leur contact. Mais j'avais toujours une espèce de peur... Lié au travail du sexe, qui était « mais qu'est-ce qui se passe si je fais face à quelqu'un qui me plaît pas ?» Et que, en tant que garçon, je me retrouve à pas être capable de performer complètement. J'entends par là de simplement, on va dire, bander. Si tout d'un coup ça se passe pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? L'homme en question, il vient de me payer pour 1 heure, puis je suis pas capable de faire ce qu'il vient de me demander. Ça faisait partie des premiers questionnements que j'avais avec eux, par exemple. Comment je fais pour protéger ma santé là-dedans, si je me retrouve dans des situations où j'ai pas le choix. Suivant ce que je suis en train de proposer, je me mets en danger, parce que c'est tout d'un coup 1 heure que je vais passer attaché, par exemple. La manière que j'ai d'approcher le travail du sexe, elle est très multiple. C'est essentiellement de l'escorte, mais à travers l'escorte, je fais autant... Des massages tantriques, que des initiations BDSM, que du sexe tout à fait conventionnel. Et dans certains cas, c'est assez dangereux, je pense. Alors, j'ai pas fait face à ces problèmes encore. C'est assez récent, ma pratique. Donc, je considère pas non plus avoir énormément d'expérience, mais sur l'ensemble de ces mois, j'ai eu aucune expérience négative. J'ai pas eu de problème avec qui que ce soit. À aucun moment, la question de la protection, c'était un problème. Est-ce qu'on porte une capote? Est-ce que t'es sous PrEP? Est-ce que... C'est vrai qu'avec mes clients, c'est quelque chose que je règle assez vite par la parole. Je pense qu'il y a beaucoup de communication à mettre en place. Ça en décourage beaucoup. J'aimerais avoir quelque chose, je pense, d'assez immédiat et de rapide, puis c'est pas ce que je leur propose. Puisqu'avec moi, c'est assez à la carte, du coup, il faut qu'ils puissent formuler quelque chose. Je suis pas initiateur. D'une certaine manière, je considère, vu la facilité que j'ai avec le corps des autres, être une forme de thérapeute. Je vais rendre un service qui est certes... contre de l'argent, mais comme toute forme de service, pour les aider à accéder à une forme de plaisir avec leur corps ou avec le mien. Du coup, c'est mon rôle de leur amener ça. Et c'est aussi comme ça que j'ai réglé ce problème par rapport au fait d'être performant. C'est justement de me rendre compte que c'était pas mon plaisir qui importait, vu que j'étais en train d'être payé pour un service pour quelqu'un d'autre, et que c'était le plaisir de cet autre qui... comptait à ce moment-là. Il y a une forme de dévouement. La seule chose qui compte, c'est leur plaisir. Donc je suis prêt à tout faire pour ça. Le travail du sexe, depuis longtemps, c'est une notion qui me perturbe, depuis déjà enfant, de déprécier cette profession, alors que je suis un fada d'histoire et assez vite, j'ai compris en faisant du latin que c'était l'une des première profession de l'humanité, et que à l'époque on les appelait pas des putes, mais on les appelait des louves, et c'était tout autant péjoratif, et je comprenais pas en quoi c'était autant problématique, puisque le mythe fondateur de Rome, c'est 2 enfants qui sont élevés par cette louve. Donc il y a une métaphore derrière la louve de Rome, qui est en fait les enfants se sont fait élever par une prostituée, et ça devient l'un des plus grands empires de l'Antiquité, donc il y a quelque chose qui fonctionnait pas, pour moi, déjà assez tôt, dans comment on considérait ce travail. Après, faire le pas pour avoir les premiers clients et se retrouver à travailler réellement en tant qu'escorte, ça a pris beaucoup plus de temps. Je pense qu'il y a eu au début des raisons financières, mais qui à la fois me titillaient pour me lancer, parce que tout d'un coup j'étais dans le besoin, et puis en même temps me retenaient, parce que j'avais l'impression que c'était pas la bonne raison pour s'y mettre. À cette époque-là, je pense que ça corrèle aussi avec le début pour moi d'un coming out fétichiste, et du coup d'une approche de la sexualité différente, d'une ouverture à d'autres formes de sexualité. Une de mes meilleures amies qui a fait les mêmes études que moi, elle était fétichiste. Elle m'a embarqué à Berlin au German Fetish Ball. Donc c'est la scène hétéro, c'est pas du tout la scène gay. Et je pense que le milieu hétéro pour moi était plus simple dans le sens où, à cette époque-là, comme je me considérais encore comme un homosexuel, je me sentais presque protégé. Je suis juste venu m'habiller en latex pour être avec vous, mais pas forcément avoir du sexe avec vous. Du coup, je pense qu'il y avait déjà une forme de sensibilisation au sexe et donc aussi au travail du sexe. Il y a quelque chose de beaucoup plus libre. C'est typiquement dans ce genre de milieu qu'on peut tomber sur un homme habillé en soubrette dans une soirée et qui est tout à fait heureux de jouer la soubrette, et puis c'est OK pour tout le monde. Il n'y a aucun jugement négatif qui émane de qui que ce soit dans ces milieux. Du coup, je pense que ça a permis aussi, au moment où j'étais tellement dans le besoin financier, de pouvoir formuler que c'était peut-être une possibilité. J'étais dans une phase où financièrement, il n'y avait rien qui fonctionnait. Professionnellement, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait. Socialement, c'était assez terrible, parce que j'étais plus ou moins en train de rater mes études et je consommais pas mal de drogue. Donc, il y avait trop de choses en même temps pour que je me dise « Ah, je vais rajouter le travail du sexe par-dessus. » Non, j'avais juste l'impression que j'allais me mettre encore plus en danger. Et du coup, c'est revenu au goût du jour il y a de ça presque un an. Essentiellement via des cercles d'amis de la fête du slip, où j'ai rencontré des travailleurs du sexe. Et c'était la première fois que j'entendais ce terme, que je faisais pas face ni à escorte, ni à pute, ni à prostituée. Et eux le revendiquaient de manière très politique. Le travail du sexe, c'est un spectre énorme où on considère la pornographie, le visuel, l'escorte, les camgirls, les camboys. Enfin, il y a un panel de professions liées au travail du sexe qui est beaucoup plus large que ce que le commun des mortels a tendance à considérer. Et je pense qu'ils y font tous face d'une manière ou d'une autre. C'était une année qui laissait de l'espace pour expérimenter dans tous les domaines, parce qu'il y avait longtemps que j'avais envie de reprendre une pratique artistique, que j'avais envie d'avoir des projets pour moi, de développer des choses aussi à l'écrit. Et tout d'un coup, le travail du sexe, c'était un moyen d'expérimenter, certes, la sexualité et mon identité face à d'autres personnes, comment est-ce que je me comporte avec des personnes que je connais pas vis-à-vis de la sexualité, etc. Mais, outre l'aspect pécunier, c'est aussi devenu, dans ce sens-là, une plateforme d'expérimentation où, artistiquement, ça m'apporte beaucoup. Je suis une autre personne dans ces moments-là où je joue avec un autre personnage. Et aussi, tout d'un coup, c'est devenu assez rapidement spirituel avec certains de mes clients, avec l'arrivée du tantra et de certains massages sacrés hawaïens qu'on m'a appris à Berlin l'été dernier. C'est devenu du matériel pour créer également. Je me suis mis à prendre des notes, à réfléchir sur ce que ça voulait dire, comment ça se passait. Tout d'un coup, s'il y avait des moments de tension, essayer de les comprendre et de les régler par la créativité, d'une certaine manière. Il y avait moins le besoin financier. Cette fois-ci, il y avait plus de l'espace pour pouvoir le développer qu'un besoin, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important dans le début de cette pratique.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la première fois, alors, ce premier client ?
Alors, j'ai un profil sur un site internet. Il y a pas mal de plateformes en ligne pour les escortes gays, en tout cas c'est assez facile. Et donc il m'a contacté par ce site. Et sur ce profil j'ai une liste de toutes les choses que je peux faire et aussi une liste de qui je suis. Je trouvais assez drôle de faire ça sous forme de liste, mais en ayant des termes comme queer, multiple, polyamour, expérience de boyfriend. Et du coup il a assez vite vu que je proposais des choses liées au fétichisme, au queer, au latex, à la domination, à la soumission. Et c'était là-dedans qu'il voulait qu'on fasse des choses, mais c'était quelque chose de très soft dans un premier temps, parce qu'il avait juste envie qu'on soit looké, puis qu'on fasse l'amour looké. C'était assez flippant pour une première, dans le sens où on se lance un peu dans l'inconnu, comme ça. Après, j'ai un instinct de survie très développé, Typiquement, dans ce cas-là, j'avais trois copines différentes qui savaient exactement où j'allais, qui devaient appeler d'abord mon numéro à telle heure si ça allait pas, et puis un autre doigt derrière si ça allait toujours pas, si j'avais toujours pas donné signe de vie, et si ça allait plus loin, qui devait prendre contact avec la police. J'avais développé toute une méthodologie pour me défendre, si jamais. Du coup, il est venu me chercher, mais je crois qu'il était en retard. J'étais presque prêt à remonter dans le train et à me dire, bon, bah tant pis, voilà, c'est une première ratée. Mais en fait, il m'écrivait des messages, il était en route, vu qu'il habitait assez loin dans la montagne. Et du coup, il est arrivé, c'est quelqu'un qui a des moyens, on dira. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange et de bizarre dans ces premières 20 minutes qu'on a passées ensemble, où il n'y avait pas de sexe, où il n'y avait pas ce service qu'il était en train de m'acheter. Et on en est vite venu à parler de Berlin. Parce que du coup, vu qu'il était fétichiste, je trouvais que c'était assez simple de parler de mon amour pour cette ville et de sa multiplicité et de la scène fétiche. Puis quand on est arrivé chez lui, bah, je me souviens qu'il y avait deux chats qui sont venus m'accueillir. Déjà, il a un espèce de chalet où il vit tout seul. Enfin, il y a deux, trois maisons autour, mais on a l'impression qu'il vit tout seul parce qu'il a une énorme vue sur tout un coup le lac. Il n'y a pas d'autres maisons derrière ni devant. Donc il y avait un côté un peu grotte dans l'endroit dans lequel on a été, où il y avait juste une toute petite fenêtre, il faisait très sombre, il avait baissé les stores, au cas où, si tout d'un coup il y avait des marcheurs ou des gens du village qui pouvaient nous voir. Là, il ouvre un grand placard dans lequel il y a, je sais pas, je pense, 50 blousons, 50 bombers. Et là, j'ai compris qu'il était très branché par ce genre de look, que c'était peut-être ça son plus gros fétiche, même s'il m'avait demandé de venir en cuir, lui, il n'en avait pas du tout. Ah, moi, mon truc, c'est ça. Donc, moi, je vais avoir mon bombers et ma combinaison militaire dessous. Et du coup, on s'est changé. Bah, je pense que j'étais pas le premier qui l'engageait. Donc, il savait d'une certaine manière comment y aller aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui a fait le premier pas, qui m'a attrapé et qui s'est mis à m'embrasser. Et c'est comme ça que le plan a commencé. Là, dans ce cas-là, c'était prévu que il m'engage pour 1 heure. J'avais pas mis de réveil, mais je pense que j'ai une horloge dans la tête. Fait que tout d'un coup j'étais là, ah je crois qu'il reste 5 minutes. Je me suis levé, j'attrape mon téléphone, ah oui, bon bah on va finir. Moi j'ai pas fini d'ailleurs, mais c'est souvent pas la question, à moins qu'on me le demande, mais il y a un côté où c'est pas forcément ce qu'il recherche. Et bah du coup on est remonté à l'étage, il a été très rigolo, hein. Il m'a payé exactement ce qu'il fallait, mais c'est vrai qu'il l'a payé au moment où je sortais de la voiture et qu'il m'a ramené en bas de la montagne quoi. On avait prévu 180 francs pour 1 heure. Ce qui après s'est révélé être pas assez pour ce genre de plan-là, parce que ça engage un déplacement. C'est-à-dire que j'avais un train à payer, un temps à consacrer à ce déplacement, qui je considère doit aussi être pris en compte dans le tarif. J'étais super content parce que ça s'était bien passé. J'ai tout de suite reçu des messages de lui après, il a laissé un commentaire sur mon profil aussi pour me dire à quel point j'étais sympa, j'avais de la conversation facile et que je mettais les gens à l'aise. Non, sinon je me sentais vraiment assez bien dans ma peau et content d'avoir réussi à le faire. Du coup, c'était ma première fois et c'était un succès.
Là, pour le coup, il n'y avait aucune émotion, aucun sentiment. Donc, comment est-ce que vous vous êtes
Alors,
détaché de cette nécessité d'associer sexualité et sentiment?
je pense que ce qu'on considère comme étant l'amour, mais d'autres formes d'émotion aussi, n'est pas toujours très juste au niveau relationnel. L'émotion comme l'amour peuvent être des choses de l'instant présent, qu'engage pas à quoi que ce soit pour le futur. Alors avec lui, je sais pas si tout d'un coup il y avait réellement des émotions ou des sentiments. Il y avait clairement une excitation face à la nouveauté. Mais avec d'autres par la suite, j'ai un client régulier que je vois au moins une fois par mois, depuis le mois d'octobre. Et avec lui, il y a clairement. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'amour qui se met en place quand on est ensemble. Et que c'est aussi ça que je suis en train de lui vendre, d'une certaine manière. Que je lui offre une forme d'affection et de sentimentalité qui va avec l'acte qu'on est en train de performer.
Est-ce que sur le plan entre guillemets déontologique,
Ouais.
ça vous pose pas de problème de vendre quelque part l'illusion de l'amour?
Bah, c'est vous qui dites que c'est une illusion. C'est une illusion parce qu'elle est temporaire. Moi, je crois pas que parce que l'amour est temporaire, c'est une illusion. Au contraire, il y a des moments où je suis amoureux de mon chat et ça dure 2 minutes dans la journée. Après, je suis plus amoureux de lui. Je pense que l'amour est à plein d'autres endroits et l'amour, c'est justement un construit qu'il faut qu'on repense et qu'on restructure. C'est comme si l'amour était scellé dans la structure du couple et dans les choses pragmatiques qui en découlent. Enfin, comment est-ce qu'on peut construire des choses ensemble à deux pour être une entité à deux et non pas être deux individus qui de temps en temps partagent des choses fortes et profondes. Ouais, déjà, j'ai pas l'impression que c'est une illusion, et est-ce que d'un point de vue déontologique, ça me pose problème? Non plus, parce que d'une certaine manière, c'est aussi comme ça que j'arrive à lui promulguer des soins à cet homme. Que c'est ça dont il a besoin à une phase dans sa vie où c'est quelqu'un d'assez âgé, qui est en train d'essayer de régler la question de la sexualité. Il a eu beaucoup de problèmes de santé ces dernières années. Il a failli y passer, puis il a survécu. Et il y a des choses qui découlent de ça qui font qu'il ne sait pas exactement combien de temps il a encore à vivre sur cette terre. Et du coup, lui, quand il a commencé à m'engager, ce qu'on a rapidement formulé dans ce qui se passerait entre nous, c'était le fait qu'il avait besoin d'explorer beaucoup de choses dans la sexualité, parce qu'il avait l'impression que c'était là qu'il allait pouvoir aussi se soigner, parce qu'il avait des liens manquants. Il y avait des choses qu'il n'avait pas eu le temps de faire dans sa vie, qu'il n'avait pas eu le temps d'essayer, typiquement des choses de fétichisme et d'amour. C'est quelqu'un qui n'a jamais été en couple et qui, en fait, apprécie aussi avoir de temps en temps l'impression d'être en couple. Il n'a pas besoin de se dire que c'est tous les jours qu'il est en couple, tandis que si il m'engage pour partir une semaine en vacances avec lui, ben pendant une semaine en vacances, on est un couple d'une certaine manière. Et c'est vrai que c'est ce service-là pour lequel je suis engagé. Mais je vois où la déontologie entre en compte, mais j'y crois pas.
Depuis que vous avez commencé, il y a donc 8 mois, combien de clients est-ce que vous avez eu?
Alors, j'en ai 3, voire 4 que je peux considérer comme des clients réguliers, que je vois au moins une fois par mois. Et dans l'absolu, il doit y en avoir 8, peut-être, depuis le mois d'août. Ce qui n'est pas énorme, en fin de compte, hein. Je pense qu'il y en a qui en font beaucoup plus que moi, mais... Je sais pas, je crois que je suis sélectif. Pas d'accord qu'on manque de respect avant même de m'avoir rencontré ou que sur ces applications, c'est vrai que le contact il est assez étrange. Je pense que mon profil est un peu sort un peu du lot vu tout ce que je propose et comment est-ce qu'il est construit et la manière que j'ai de me présenter par le texte. En plus, je me cache, je montre pas mon visage, donc les gens qui vont s'adresser à moi, c'est des gens qui ont forcément lu le profil en détail parce que je montre des bouts de mon corps, mais je me montre pas complètement alors que il y en a plein d'autres qui représente un peu ce cliché dans le milieu gay du latino bodybuildé qui a un engin XXXL et qui est là pour vous faire du bien. Enfin, il y a une manière de se présenter et de faire sa pub. J'entre pas là-dedans et du coup, je me permets d'être sélectif vis-à-vis de comment on s'adresse à moi. Si tu m'as pas dit bonjour, si tu vas droit au but, si tu m'envoies une photo de ta queue avant même de m'avoir parlé, des gens qui grilleraient des étapes qui pour moi sont importantes dans l'échange, bah c'est pas possible. Ou alors ça va simplement être du sexe pour du sexe, puis finalement je suis pas en train de jouer mon rôle de thérapeute. Il y a quelque chose là qui joue pas. Si vous voulez savoir quel genre de personnes j'ai rencontrées via ces applications, c'est des gens de tout âge et tout milieu. Ça touche toutes les strates de la société. Ouais, j'ai eu des juristes, j'ai eu des banquiers, j'ai eu des artistes. J'ai eu des étudiants, des hétéros, des homosexuels, des bi, un peu de tout en fait.
Quel est le préjugé au sujet du travail du sexe qui vous choque le plus?
Attendez, il y en a plein qui se télescopent dans ma tête là, mais je crois quand même celui qui ressort en premier, c'est cette idée que on a été embarqué dans la profession sans avoir eu le choix. Que ça émanait pas d'un choix personnel, qu'on nous a forcé la main. Parce que de mon expérience, c'est pas du tout le cas. J'ai parlé avec des gens qui évoluent dans ces milieux de travail du sexe à Berlin et dans d'autres endroits en Europe, mais à aucun moment ils m'ont dit « Allez, vas-y, c'est bon, t'es prêt !» Enfin, c'était pas du tout la question, au contraire. C'est plutôt « Est-ce que t'en as vraiment envie? Est-ce que toi, en tant que personne en face de moi, t'as vraiment envie de te lancer là-dedans parce que tu peux faire face à certaines difficultés, tu peux être mal accueilli par certaines personnes, tu peux avoir des expériences horribles, parce qu'il y en a, malgré tout, je pense qu'on se met à nu. » Quand même, quand on est travailleur du sexe, on se retrouve dans des situations où on a 2 corps nus dans une pièce qui n'est pas chez nous. Enfin, c'est des instants de vulnérabilité.
Quand vous parliez de dépréciation de ce travail, d'une façon générale, est-ce que vous avez le souvenir de l'avoir entendu, en particulier de la part de, je sais pas, vos parents, par exemple, ou...
Oui, je pense. Ma mère, surtout, j'imagine, et son entourage. Je suis assez persuadé, vu comment ma sœur en parle aujourd'hui, qu'à l'époque, elle devait faire partie de courants féministes qui étaient contre le travail du sexe, qui considéraient que c'était aussi une manière d'objectifier et de réduire la femme à un statut moindre que celui de l'homme. J'ai grandi dans un milieu féministe et assez gauchiste. Mon père, quant à lui, c'est plutôt un gars qui a trouvé un boulot très rébarbatif, mais qui lui a laissé beaucoup de place pour vivre ses passions. Il se définirait comme un rider, il fait du sport sur le lac, et puis j'ai des souvenirs de lui fumant à la maison, un peu pété à faire ses dessins, il faisait des caricatures. Et du coup, il y avait quelque chose de très visuel et de très art de la scène en même temps, et un engagement politique assez prononcé. Donc rien de religieux, pas de baptême ou quoi que ce soit, on était athées assez vite, c'est des 68 arts sur le tard. Et... Ma famille, je pense que je vais leur en parler. Mais ma famille, je mets toujours un peu de temps à leur annoncer les choses parce qu'il faut que je prépare le terrain. J'ai un cousin qui est au courant. La plupart de mes amis sont au courant. Après, qui est-ce que je considère comme mon ami? Moi, il doit y avoir 7-8 personnes qui sont au courant. Après, quand je rencontre des personnes pas forcément pour le travail, c'est-à-dire avec lesquelles je pourrais avoir simplement du plaisir pour moi, ou une histoire d'amour qui pourrait se développer, etc., avec eux, j'ai tendance à en parler assez vite. Premier ou deuxième rendez-vous, c'est assez vite sorti, histoire qu'on ne fasse pas face à ce problème à l'avenir. Et ça a toujours été assez bien accueilli.
Les gens auxquels vous n'en parlez pas, de quoi est-ce que vous avez peur?
Alors, ben, les gens auxquels j'en parlerai pas, ce seraient des gens dans d'autres milieux professionnels dans lesquels je pourrais évoluer. Ou là, j'aurais peur de conséquences sur ma profession, sur mes autres professions. D'être renvoyé, de ne pas avoir le droit de travailler avec des enfants, typiquement l'enseignement dans le public... En fait, j'en ai aucune idée, je projette là, mais j'imagine que si je suis ouvertement un travailleur du sexe, ça pourrait poser problème d'être au contact d'enfants et de travailler dans l'éducation. Après, bah, on en revient à ma famille. Je sais que ma sœur, typiquement, elle a une vision du travail du sexe ultra négative, où elle a l'impression que c'est des pauvres femmes, donc déjà c'est des femmes qui n'ont pas eu le choix, qui se sont retrouvées dans des maisons closes et qui ont des vies terribles parce qu'elles ont 3 enfants, puis qu'elles sont toutes seules et qu'elles sont droguées, et qu'elles passent la soirée à boire du champagne pour pouvoir travailler, te rends compte à quel point c'est horrible, etc.
Ça existe.
Et bien sûr que ça existe, mais il n'y a pas que ça qui existe. C'est une vision très restreinte du travail du sexe, en fait.
Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est important en tant que société qu'on en parle?
Parce que c'est une forme d'ostracisation d'une partie de la population. Que moi je peux vivre à différents niveaux, d'un point de vue intersectionnel, comme ça, en tant que. Ayant grandi en tant qu'homosexuel, maintenant travailleur du sexe, drag queen, en plus de ça, je suis dans plusieurs domaines qui font que je suis assez vite l'autre par rapport à la norme. Et du coup, dans cette situation où on est facilement dans le rôle de l'opprimé, de celui qui n'est pas compris ou de celui qui est rejeté, marginal dans la société, ben, c'est important qu'on en parle pour éviter que les gens se fassent leur propre mythe ou participent aux mythes qui sont énoncés par la société. Et du coup, c'est dans ce sens-là où, vis-à-vis de l'homosexualité, j'ai un rôle d'éducateur où je dois montrer ce que c'est, faire prendre conscience aux gens qui me rencontrent que le gay, l'homosexuel, c'est pas exactement l'image que tu t'en fais. Tu t'en fais une telle image parce que tu me connais pas, en fin de compte, et c'est l'ignorance qui fait que tu te permets de me déprécier, de me juger, de m'insulter, de me réduire, de te considérer homophobe, de penser que tes enfants, faut absolument pas qu'ils deviennent homosexuels parce que sinon t'auras pas de descendance, etc. Tous ces clichés liés à l'homosexualité, je pense que il y a longtemps qu'on a commencé le processus pour le dégrossir et éduquer les populations, mais je pense que le travail du sexe, on en est un peu à une même période. On a un besoin d'ouverture pour normaliser la chose. Ouais.
Merci d'avoir écouté Brise-glace. Je suis Célia Héron et cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum avant d'être monté et mixé par Adrien Samaki Yablou. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Brise-glace sur le site du Temps sous l'onglet Podcast ou sur iTunes et SoundCloud. Faites-nous part de vos impressions et commentaires sur Twitter, Facebook ou à l'adresse briseglace@letemps.ch. Et si ce podcast vous a plu, dites-le nous sur iTunes avec des étoiles. À dans 15 jours!